Et alors que le monde reproche à Israël sa gestion de la guerre à Gaza et menace de reconnaître un État palestinien, en coulisses, les grandes chancelleries poursuivent leur collaboration avec les services de sécurité israéliens. Par exemple, c'est le cas de l'Australie et de l'Allemagne qui ont eu des mots durs à l'égard d'Israël et de son gouvernement sur le dossier de Gaza dernièrement. Alors est-il impossible pour le monde de se passer des compétences israéliennes en matière de défense et de renseignement? La question est posée et Jonathan Serrero va s'en entretenir avec notre invité du jour, Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal. Jonathan, je vous laisse en parler avec lui.
Raphaël, bonjour, Boker Tov.
Bonjour.
Alors, avant de revenir avec vous sur cette information et cette coopération entre Canberra et Jérusalem en matière de renseignement, Raphaël, j'aimerais revenir et évoquer aussi avec vous l'opération d'envergure menée par Tsahal en Syrie cette nuit. On le sait, il y a des discussions entre les officiels des deux pays, mais cela n'empêche pas Tsahal d'opérer en territoire syrien. Alors, quel est l'ennemi d'Israël en Syrie et que cherche à savoir Israël sur la Syrie, Raphaël?
Il y a deux ennemis d'Israël en Syrie. L'un potentiel, si le nouveau régime en place à Damas s'avère être un régime islamiste en fin de compte et non pas le régime plus libéral qu'il prétend être, avec une influence dangereuse possible de la Turquie. Il faut donc ici faire preuve de méfiance tant qu'on n'a pas des preuves de bonne volonté de la part de ce régime, d'où les négociations en cours entre Damas et Jérusalem. Et sur le plan militaire et sécuritaire, donc des opérations destinées se prémunir d'une éventuelle menace militaire de la part de ce régime. Et dans certains cas, il faut soit détruire certains entrepôts, on en a découvert, il reste beaucoup d'armement de la période d'Assad aux mains de l'armée syrienne qui peut inquiéter les Israéliens. Ça c'est le premier ennemi. Le second ennemi, ce sont effectivement ces relents du régime d'Assad, inclus des entrepôts qui concernent non plus donc le nouveau régime en place à Damas, mais le Hezbollah et les intérêts iraniens en Syrie. Il demeure des entrepôts là également, d'armes qui pourraient être utiles au Hezbollah, des entrepôts d'armement chimique non conventionnel dont on ne veut qu'il ne tombe aux mains de personne. Donc le labeur ne manque pas, et c'est la raison pour laquelle certaines opérations sont menées dès qu'on a une indication sur un matériel spécial ou sur même des personnes qui pourraient être éliminées. Ces opérations sont menées et en même temps il y a donc une vigilance accrue. Les Syriens prétendent qu'ils auraient découvert du matériel d'écoute et de surveillance posée par les Israéliens non loin de Damas. Ce n'est pas étonnant, ça fait partie de cette opération de vigilance et de surveillance.
Alors, Raphaël, on va revenir avec vous sur cette information publiée hier par nos confrères de Sky News Australia qui ont révélé que les renseignements israéliens ont informé les services de sécurité australiens de l'imminence d'une attaque terroriste commanditée par l'Iran sur son sol. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi l'Iran cherche à déstabiliser l'Australie, ou là aussi, que cherche l'Iran sur le sol australien? Et il y a une troisième question qui se pose. On va essayer de réunir toutes ces questions. Est-ce que l'Iran aussi cherche à porter atteinte aux intérêts israéliens et juifs en Australie?
Oui, absolument. L'Iran, et j'ajouterai le Qatar. L'Australie n'est pas visée spécifiquement. On a ces mêmes activités un peu partout dans le monde où l'Iran cherche des cibles faciles, des cibles molles. Il va dans des endroits où il est facile de recruter des complicités locales, même mafieuses. Et en Australie, ça a l'air plus facile. Il cherche aussi la facilité dans la mesure où il y a un laxisme assez inquiétant de la part du gouvernement australien, qui savait depuis des mois qu'il y avait cette possible implication iranienne dans la perpétration d'attentats antisémites en Australie. Alors sur le plan politique, il y a un problème du gouvernement australien qui a été obligé cette fois-ci de prendre des mesures face à l'évidence, mais sur le plan militaire et sécuritaire, la coopération est au beau fixe entre les Israéliens et les Australiens dans la lutte contre le terrorisme, qui est une lutte évidemment globale, puisque la menace est globale. Je rappelle qu'en France, même dans les moments où il y avait de l'eau dans le gaz diplomatique entre Israël et la France, la coopération a toujours été sur le plan sécuritaire absolu, et la même chose en Belgique, où on a même trouvé des cellules iraniennes qui préparaient un attentat de Belgique vers la France. Au plan sécuritaire, ça marche toujours, au point d'ailleurs que souvent les services de sécurité français, australiens ou belges étaient très frustrés du laxisme des politiciens, du manque de vigilance, de ne pas recevoir les personnels et les budgets nécessaires pour lutter contre le terrorisme, avec des résultats tragiques que l'on sait au Bataclan et ailleurs. Il a fallu à un certain moment donné, donc il y a une sorte de décalage entre le politique et le sécuritaire sur la lutte, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, pour des raisons politiques que l'on sait, par rapport à la politique face aux pays arabes et aux problèmes palestiniens, qui peuvent nuire. Donc, en fin de compte, c'est ce qui paraît, les déclarations intempestives de Macron ou l'attitude du président australien sont en fait des dangers sécuritaires pour leur propre pays.
Alors, Raphaël, c'est important ce que vous dites. Même si, selon les autorités israéliennes, lorsqu'on les interroge, il n'existe aucune indication sur une responsabilité directe de l'Iran derrière la recrudescence des actes antisémites, ce que l'on appelle l'été antisémite à travers le monde. Pensez-vous, et vous avez déjà évoqué le sujet lors de votre dernière réponse, pensez-vous que l'Iran a activé ses réseaux et ses hommes acquis à leur cause pour porter atteinte aux Juifs à travers le monde, et qu'il y a une opération coordonnée depuis Téhéran contre les Juifs à travers le monde?
Absolument, car que les Juifs dans le reste du monde, c'est la cible molle. L'Iran se montre incapable de frapper véritablement à l'intérieur d'Israël avec des attentats. L'Iran a du mal à attaquer les intérêts israéliens tels que les ambassades israéliennes à l'étranger ou des intérêts économiques israéliens à l'étranger. Et s'en prend donc aux cibles les plus faciles. En plus, le modus operandi est très clair. Lorsqu'on dit l'Iran, on parle des gardiens de la révolution, hein, bien sûr, qui ont une division spéciale consacrée justement à la diaspora juive, une division spéciale qui s'occupe de cela. Et donc, toutes les ambassades iraniennes sont des entrepôts d'armes. La moitié du personnel, au moins, d'une ambassade iranienne appartient aux gardiens de la révolution et n'a aucune fonction diplomatique, mais bien une fonction de sabotage et de terrorisme. C'est toutes les ambassades, c'est pas juste en Australie, bien sûr. Et donc, ils cherchent les solutions les plus faciles avec un recrutement. C'est un peu ce qui caractérise, c'est un peu la signature des Iraniens, de personnes plutôt louches, hein, des malfrats, de la mafia, souvent d'ailleurs des gens qui sont fichés ou même des migrants illégaux. On a vu beaucoup de fois utiliser des Tchétchènes, des Pakistanais à travers le monde, surtout en Turquie, et même sur le sol européen.
Face à la mollesse et le manque de fermeté de ces gouvernements qui peinent à contrecarrer la menace iranienne, que peut faire Israël pour protéger les Juifs à travers le monde?
Alors, Israël opère sur plusieurs plans. Le premier, c'est donc la continuation, heureusement, des excellentes relations qui existent au niveau sécuritaire entre les institutions de défense. Ça a toujours été le cas, même dans les pays où il y a un froid diplomatique. Il y a une continuation, donc en Belgique, par exemple, vous avez une politique anti-israélienne affirmée, alors que sur le plan sécuritaire, le rapport entre les services de renseignement est excellent, surtout donc pour la lutte contre le terrorisme, qui est évidente. Vous avez cette action qui est aussi doublée d'une action israélienne plus discrète, mais qui existe sur le plan de la sécurité des Juifs à l'étranger, qu'il s'agisse d'un soutien de l'entraînement ou de conseils à la sécurité communautaire locale, hein, c'est-à-dire des Juifs qui eux-mêmes assurent la sécurité des synagogues ou des événements juifs eux-mêmes, avec l'aide aussi de la police locale, en coordonnant avec la police locale. Ils reçoivent des conseils d'Israël, certains sont même allés en Israël pour des formations. Et puis il y a tout ce qui est la vigilance, c'est-à-dire avoir sans arrêt les radars sur la communauté juive pour bien voir d'où peuvent venir certaines menaces, ce qui est doublé aussi de la surveillance et de la protection des touristes israéliens qui se déplacent à travers le monde et qui en général fréquentent les communautés juives, soit pour le Shabbat, soit pour les fêtes. Tout cela est lié et il y a donc une vigilance accrue et il y a aujourd'hui au Mossad deux départements qui s'occupent de cette menace antisémite. Un département qui existait depuis très longtemps, qui s'occupait de l'extrême droite néo-nazie, et évidemment les nouveaux départements plus récents qui s'occupent de l'islamo-gauchisme.
Dernière question, Raphaël, le temps nous est compté. Le Parlement allemand a donné son feu vert hier à l'achat de 90 nacelles de ciblage Lightning 5 à la société israélienne Rafael, et ce malgré l'embargo décidé par le chancelier allemand Friedrich Merz. J'ai une question toute simple. Israël peut-il survivre à ces embargos et l'Allemagne peut-il survivre sans l'aide d'Israël? Réponse très courte.
Alors très simple, Israël peut se débrouiller malgré les embargos qui sont sur des quantités minimes d'armement. Dans l'autre sens, Israël exporte énormément vers l'étranger avec une supériorité technologique et des avancées technologiques qui sont indispensables à la défense, surtout en Europe. Le principal client des Israéliens, c'est l'Europe. Et Israël est incontournable si on veut obtenir un matériel qui permettrait éventuellement d'affronter une menace venant de la Russie.
Merci Raphaël.